Bonjour, nous vous proposons ce jour une nouvelle émission de la série que nous consacrons à Marcel Proust. Le thème de cette émission est la soirée Guermantes. La soirée Guermantes est un épisode de la recherche qui se trouve dans le dernier tome de l'ouvrage « Le temps retrouvé ». Ce tome met en scène quelques-uns des personnages du roman que le narrateur retrouve à cette occasion une trentaine d'années après leur dernière rencontre. Proust va ainsi nous offrir une plongée hallucinante et magnifique dans le temps qui a passé, pour lui, pour eux, comme pour nous, et nous inviter à cette occasion à la même réflexion que la sienne, et qui finira par nous concerner tous, tout autant que lui. Des illustrations musicales viendront ponctuer les lectures. Il s'agira d'extraits musicaux tirés de différentes pièces, toutes écrites et interprétées par Carlos D'Alessio. Ces émissions sont réalisées avec la participation à la diction, mais aussi au choix des thèmes et extraits retenus, d'André Bonhomme, avec qui nous co-réalisons ces émissions qui nous tiennent fort à cœur à tous les deux.
À ce moment, le maître d'hôtel vint me dire que le premier morceau étant terminé, je pouvais quitter la bibliothèque et entrer dans les salons. Au premier instant, je ne compris pas pourquoi j'hésitais à reconnaître le maître de maison, les invités, et pourquoi chacun semblait s'être fait une tête, généralement poudrée, et qu'il échangeait complètement. Le prince avait encore, en recevant, cet air bonhomme d'un roi de féerie que je lui avais trouvé la première fois, mais cette fois semblait s'être soumis lui-même à l'étiquette qu'il avait imposée à ses invités. Il s'était affublé d'une barbe blanche et semblait avoir assumé de figurer un des âges de la vie. À vrai dire, je ne le reconnus qu'à l'aide d'un raisonnement et en concluant de la simple ressemblance de certains traits à une identité de la personne. Je ne sais ce que le petit faisant sac avait mis sur sa figure, mais tandis que d'autres avaient blanchi, qui la moitié de leur barbe, qui les moustaches seulement, lui, sans s'embarrasser de ses teintures, avait trouvé le moyen de couvrir sa figure de rides, ses sourcils de poils hérissés. Tout cela d'ailleurs ne lui seyait pas. Son visage faisait l'effet d'être durci, bronzé, solennisé. Cela le vieillissait tellement qu'on n'aurait plus dit du tout un jeune homme. Je fus bien plus étonné au même moment en entendant appeler duc de Châtellerault un petit vieillard aux moustaches argentées d'ambassadeur, dans lequel seul un petit bout de regard resté le même me permit de reconnaître le jeune homme que j'avais rencontré une fois en visite chez madame de Villeparisis. À la première personne que je parvins ainsi à identifier, en tâchant de faire abstraction du travestissement et de compléter les traits restés naturels par un effort de mémoire, ma première pensée eut dû être et fut peut-être bien moins d'une seconde de la félicité d'être si merveilleusement grimée qu'on avait d'abord, avant de la reconnaître, cette hésitation que les grands acteurs, paraissant dans un rôle où ils sont différents d'eux-mêmes, donnent en entrant en scène au public qui, même averti par le programme, reste un instant ébahi avant d'éclater en applaudissements. Alors, dans les coulisses du théâtre ou pendant un bal costumé, on est plutôt porté par politesse à exagérer la peine, presque à affirmer l'impossibilité qu'on a à reconnaître la personne travestie. Ici, au contraire, un instinct m'avait averti de les dissimuler le plus possible. Je sentais qu'elle n'avait plus rien de flatteur, parce que la transformation n'était pas voulue, et m'avisait enfin, ce à quoi je n'avais pas songé en entrant dans ce salon, que toute fête, si simple soit-elle, quand elle a lieu longtemps après qu'on a cessé d'aller dans le monde, et pour peu qu'elle réunisse quelques-unes des mêmes personnes qu'on a connues autrefois, vous fait l'effet d'une fête travestie de la plus réussie de toutes, de celle où l'on est le plus sincèrement intrigué par les autres, mais où ces têtes, qu'ils se sont faites depuis longtemps sans le vouloir, ne se laissent pas défaire par un débarbouillage une fois la fête finie. Intrigué par les autres, hélas, aussi, les intriguant nous-mêmes, car la même difficulté que j'éprouvais à mettre le nom qu'il fallait sur les visages semblait partagée par toutes les personnes qui, apercevant le mien, n'y prenaient pas plus garde que si elles ne l'eussent jamais vu ou tâchaient de dégager de l'aspect actuel un souvenir différent. En d'autres êtres, d'ailleurs, ces changements, ces véritables aliénations semblaient sortir du domaine de l'histoire naturelle, et on s'étonnait, en entendant un nom, qu'un même être pût présenter, non comme M. d'Argencourt, les caractéristiques d'une nouvelle espèce différente, mais les traits extérieurs d'un autre caractère. C'était bien, comme pour M. d'Argencourt, des possibilités insoupçonnées que le temps avait tirées de telle jeune fille, mais ces possibilités, bien qu'étant toutes physiognomoniques ou corporelles, semblaient avoir quelque chose de moral. Les traits du visage, s'ils changent, s'ils s'assemblent autrement, s'ils sont balancés de façon habituelle d'une façon plus lente, prennent, avec un aspect autre, une signification différente. De sorte qu'il y avait telle femme qu'on avait connue bornée et sèche, chez laquelle un élargissement des joues devenu méconnaissable, un buscage imprévisible du nez, causait la même surprise, la même bonne surprise souvent, que tel mot sensible et profond, telle action courageuse et noble qu'on n'aurait jamais attendu d'elle. Autour de ce nez, nez nouveau, on voyait s'ouvrir des horizons qu'on n'eût pas osé espérer. La bonté, la tendresse jadis impossible, devenait possible avec ces joues-là. On pouvait faire entendre devant ce menton ce qu'on n'aurait jamais eu l'idée de dire devant le précédent. Tous ces traits nouveaux du visage impliquaient d'autres traits de caractère. La sèche et maigre jeune fille était devenue une vaste et indulgente douairière. Ce n'est plus dans un sens zoologique, comme pour M. d'Argencourt. C'est dans un sens social et moral qu'on pouvait dire que c'était une autre personne. Par tous ses côtés, une matinée comme celle où je me trouvais était quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une image du passé, mais m'offrait, comme toutes les images successives et que je n'avais jamais vu, qui séparait le passé du présent, mieux encore, le rapport qu'il y avait entre le présent et le passé, elle était comme ce qu'on appelait autrefois une vue optique, mais une vue optique des années. La vue non d'un moment, non d'une personne, une vue optique. Situé dans la perspective déformante du temps. Alors la vie nous apparaît comme la féerie où on voit d'acte en acte le bébé devenir adolescent, homme mûr, et se courber vers la tombe. Et comme c'est par ces changements perpétuels qu'on sent que ces êtres prélevés à des distances assez grandes sont si différents, on sent qu'on a suivi la même loi que ces créatures qui se sont tellement transformées qu'elles ne ressemblent plus sans avoir cessé d'être justement parce qu'elles n'ont pas cessé d'être à ce que nous avons vu d'elles jadis.
Thank you.
une jeune femme que j'avais connue autrefois maintenant, blanche et tassée en petite vieille maléfique, semblait indiquer qu'il est nécessaire que dans le divertissement final d'une pièce, les êtres fussent travestis à ne pas les reconnaître. Mais son frère était resté si droit, si pareil à lui-même, qu'on s'étonnait que sur sa figure jeune, il lui fait passer au blanc un moustache bien relevé. Les parties de blancheur de barbe jusque-là entièrement noires rendaient mélancolique le paysage humain de cette matinée, comme les premières feuilles jaunes des arbres, alors qu'on croyait encore pouvoir compter sur un long été, et qu'avant d'avoir commencé d'en profiter, on voit que c'est déjà l'automne. Alors moi, qui depuis mon enfance vivais au jour le jour, ayant reçu d'ailleurs de moi-même et des autres une impression définitive, je m'aperçus pour la première fois, d'après les métamorphoses qui s'étaient produites dans tous ces gens, du temps qui avait passé pour eux, ce qui me bouleversa par la révélation qu'il avait passé aussi pour moi. Et indifférente en elle-même, leur vieillesse me désolait en m'avertissant des approches de la mienne. Celles-ci me furent du reste proclamées coup sur coup par des paroles qui, à quelques minutes d'intervalle, vinrent me frapper comme les trompettes du jugement. La première fut prononcée par la duchesse de Guermantes. Je venais de la voir, passant entre une double haie de curieux qui, sans se rendre compte des merveilleux artifices de toilette et d'esthétique qui agissaient sur eux, émus devant cette tête rousse, ce corps saumonné émergeant à peine de ses ailerons de dentelle noire et étranglés de joyaux, le regardaient dans la sinuosité héréditaire de ses lignes, comme ils eussent fait de quelque vieux poisson sacré chargé de pierreries, en lequel s'incarnait le génie protecteur de la famille de Guermantes. « Ah ! Quelle joie de vous voir, vous, mon plus vieil ami !» me dit-elle. Et dans mon amour-propre de jeune homme de Combray, qui ne m'était jamais compté à aucun moment comme pouvant être un de ses amis, participant vraiment à la vraie vie mystérieuse qu'on menait chez les Guermantes, un de ses amis au même titre que M. de Bréauté, que M. de Forestel, que Swann, que tous ceux qui étaient morts, j'aurais pu en être flatté. J'en étais surtout malheureux. Son plus vieil ami, me dis-je. Elle exagère. Peut-être un des plus vieux, mais suis-je donc? Le plus extraordinaire de tous était mon ennemi personnel, M. d'Argencourt, le véritable clou de la matinée. Non seulement, au lieu de sa barbe à peine poivre et sel, Il s'était affublé d'une extraordinaire barbe, d'une invraisemblable blancheur, mais encore, tant de petits changements matériels peuvent rapetisser, élargir un personnage, et bien plus, changer son caractère apparent, sa personnalité. C'était un vieux mendiant qui n'inspirait plus aucun respect, qu'était devenu cet homme dont la solennité, la raideur empesée, était encore présente à mon souvenir, et qui donnait à son personnage de vieux gâteux une telle vérité que ses membres tremblotaient, que les traits détendus de sa figure habituellement hautaine ne cessaient de sourire avec une niaise béatitude. Poussé à ce degré, l'art du déguisement devient quelque chose de plus, une transformation complète de la personnalité. En effet, quelque rien avait beau me certifier que c'était bien Argencourt qui donnait ce spectacle inénarrable et pittoresque, combien d'états successifs d'un visage ne me fallait-il pas traverser si je voulais retrouver celui de l'Argencourt que j'avais connu et qui était tellement différent de lui-même, tout en n'ayant à sa disposition que son propre corps. C'était tellement la dernière extrémité où il avait pu le conduire sans en crever. Le plus fier visage, le torse le plus cambré, n'était plus qu'une loque en bouillie, ingité, de ci, de là. À peine, en se rappelant certains sourires d'Argencourt qui jadis tempéraient parfois un instant sa hauteur, pouvait-on trouver dans l'Argencourt vrai celui que j'avais vu si souvent? Pouvait-on comprendre que la possibilité de ce sourire de vieux marchand d'habits ramolli exista dans le gentleman correct d'autrefois? Mais à supposer que ce fut la même intention de sourire qu'eut Argencourt, à cause de la prodigieuse transformation de son visage, la matière même de l'œil par laquelle il l'exprimait était tellement différente que l'expression devenait tout autre, et même d'un autre. J'eus un fou rire devant ce sublime gaga, aussi émollié dans sa bénévole caricature de lui-même que l'était, dans la manière tragique, monsieur de Charlus foudroyé et poli. Monsieur d'Argencourt, dans son incarnation de moribond bouffe d'un renard exagéré par la biche, était d'un accès aussi facile, aussi affable que monsieur de Charlus roi Lear, qui se découvrait avec application devant le plus médiocre salueur. Pourtant, je n'eus pas l'idée de lui dire mon admiration pour la vision extraordinaire qu'il offrait. Ce ne fut pas mon antipathie ancienne qui m'en empêcha, car précisément, il était arrivé à être tellement différent de lui-même que j'avais l'illusion d'être devant une autre personne, aussi bienveillante, aussi désarmée, aussi inoffensive, que l'Argencourt habituel était rogue, hostile et dangereux. Tellement une autre personne qu'avoir ce personnage, ineffablement grimaçant, comique et blanc, ce bonhomme de neige simulant un général d'Ourakine en enfance, il me semblait que l'être humain pouvait subir des métamorphoses aussi complètes que celles de certains insectes. J'avais l'impression de regarder derrière le vitrage instructif d'un muséum d'histoire naturelle ce que peut être devenu l'insecte le plus rapide, le plus sûr en ses traits et je ne pouvais pas ressentir les sentiments que m'avait toujours inspiré M. d'Argencourt devant cette molle chrysalide plutôt vibratile que remuante. Mais je me tus. Je ne félicitais pas M. d'Argencourt d'offrir un spectacle qui semblait reculer les limites entre lesquelles peuvent se mouvoir les transformations du corps humain. Et je pus me voir comme dans la première glace véridique que j'eusse rencontrée, dans les yeux de vieillards restés jeunes à leur avis, comme je le croyais moi-même de moi, et qui, quand je me citais à eux pour entendre un démenti comme exemple de vieux, n'avaient pas dans leur regard qui me voyait tel qu'ils ne se voyaient pas eux-mêmes, et tel que je les voyais, une seule protestation. Car nous ne voyons pas notre propre aspect, nos propres âges, mais chacun, comme un miroir opposé, voyait celui de l'autre. Et sans doute à découvrir qu'ils ont vieilli, bien des gens eussent été moins tristes que moi. Mais d'abord il en est de la vieillesse comme de la mort. Quelques-uns les affrontent avec indifférence, non pas parce qu'ils ont plus de courage que les autres, mais parce qu'ils ont moins d'imagination. Puis un homme qui, depuis son enfance, vise une même idée, auquel sa paresse même, et jusqu'à son état de santé, en lui faisant remettre sans cesse les réalisations, annule chaque soir le jour écoulé et perdu, si bien que la maladie, qui hâte le vieillissement de son corps, retarde celui de son esprit, est plus surpris et plus bouleversé de voir qu'il n'a cessé de vivre dans le temps, que celui qui vit peu en soi-même se règle sur le calendrier et ne découvre pas d'un seul coup le total des années dont il a poursuivi quotidiennement l'addition. Mais une raison plus grave expliquait mon angoisse. Je découvrais cette action destructrice du temps, au moment même où je voulais entreprendre de rendre clair, d'intellectualiser dans une œuvre d'art des réalités extratemporelles. Thank you. La transformation que les cheveux blancs et d'autres éléments encore avaient opérée, surtout chez les femmes, m'eût retenu avec moins de force si elle n'avait été qu'un changement de couleur, ce qui peut charmer les yeux. Mais ce qui est troublant pour l'esprit, un changement de personne. En effet, reconnaître quelqu'un, et plus encore, après n'avoir pas pu le reconnaître, l'identifier, c'est penser sous une seule dénomination de choses contradictoires, c'est admettre que ce qui était ici, l'être, qu'on se rappelle, n'est plus, et que ce qui y est, c'est un être qu'on ne connaissait pas. C'est avoir à penser un mystère presque aussi troublant que celui de la mort dont il est du reste, comme la préface et l'annonciateur. Car ces changements, je savais ce qu'ils voulaient dire, ce à quoi ils préludaient. Aussi cette blancheur des cheveux impressionnait chez les femmes, jointe à tant d'autres changements. On me disait un nom et je restais stupéfait de penser qu'il s'appliquait à la fois à la blonde valseuse que j'avais connue autrefois et à la lourde dame à cheveux blancs qui passait pesamment près de moi. Avec une certaine roseur de teint, ce nom était peut-être la seule chose qu'il y avait de commun entre ces deux femmes, plus différentes, celle de ma mémoire et celle de la matinée guermante, qu'une ingénue et une douairière de pièces de théâtre. Pour que la vie ait pu arriver à donner à la valseuse ce corps énorme, pour qu'elle eût pu alentir comme au métronome ses mouvements embarrassés, pour qu'avec comme seule parcelle commune les joues, plus larges certes, mais qui dès la jeunesse étaient couperosées, elle eût pu substituer à la légère blonde ce vieux maréchal ventripotent. Il lui avait fallu accomplir plus de dévastation et de reconstruction que pour mettre un dôme à la place d'une flèche. Et quand on pensait qu'un pareil travail s'était opéré, non sur de la matière inerte, mais sur une chair qui ne change qu'insensiblement, le contraste bouleversant entre l'apparition présente et l'être que je me rappelais reculait celui-ci dans un passé plus que lointain, presque invraisemblable. On avait peine à réunir les deux aspects, à penser les deux personnes sous une même dénomination, car de même qu'on a peine à penser qu'un mort fut vivant, ou que celui qui était vivant est mort aujourd'hui, il est presque aussi difficile, et du même genre de difficulté, de concevoir que celle qui fut jeune est vieille, quand l'aspect de cette vieille, juxtaposé à celui de la jeune, semble tellement l'exclure que tour à tour, c'est la vieille, puis la jeune, puis la vieille encore qui vous paraisse un rêve et qu'on ne croirait pas que ceci peut avoir jamais été cela, que la matière de cela est elle-même sans se réfugier ailleurs grâce aux savantes manipulations du temps devenue ceci, que c'est la même matière n'ayant pas quitté le même corps. Si l'on avait l'indice du nom pareil et le témoignage affirmatif des amis auxquels donne seule une apparence de vraisemblance la rose étroite jadis entre l'or des épis, étalé maintenant sous la neige. Pour les vieillards, dont les traits avaient changé, ils tâchaient pourtant de garder fixée sur eux à l'état permanent une de ces expressions fugitives qu'on prend pour une seconde de pause et avec lesquelles on essaie soit de tirer parti d'un avantage extérieur, soit de pallier un défaut. Ils avaient l'air d'être définitivement devenus d'immuables instantanés d'eux-mêmes. Tous ces gens avaient mis tant de temps à revêtir leur déguisement que celui-ci passait généralement inaperçu de ceux qui vivaient avec eux. Même un délai leur était souvent concédé où ils pouvaient continuer assez tard à rester eux-mêmes. Mais alors, le déguisement prorogé se faisait plus rapidement. De toute façon, il était inévitable. Je n'avais jamais trouvé aucune ressemblance entre Madame X et sa mère, que je n'avais connue que vieille, ayant l'air d'un petit Turc tout tassé. Et en effet, j'avais toujours connu Madame X charmante et droite, et pendant très longtemps elle l'était restée, pendant trop longtemps. Car, comme une personne qui, avant que la nuit n'arrive, a à ne pas oublier de revêtir son déguisement de Turc, elle s'était mise en retard, et aussi était-ce précipitamment, presque tout d'un coup, qu'elle s'était tassée et avait reproduit avec fidélité l'aspect de vieille Turque, revêtue jadis par sa mère. Je retrouvais là un de mes anciens camarades que pendant 10 ans j'avais vu presque tous les jours. On demanda à nous présenter. J'allai donc à lui, il me dit d'une voix que je reconnus très bien. « C'est une bien grande joie pour moi après tant d'années. » Mais quelle surprise pour moi. Cette voix semblait émise par un phonographe perfectionné, car si c'était celle de mon ami, elle sortait d'un gros bonhomme grisonnant que je ne connaissais pas, et dès lors, il me semblait que ce ne put être qu'artificiellement, par un truc de mécanique, qu'on avait logé la voix de mon camarade sous ce gros vieillard quelconque. Pourtant, je savais que c'était lui. La personne qui nous avait présenté après si longtemps l'un à l'autre n'avait rien d'un mystificateur. Lui-même me déclara que je n'avais pas changé, et je compris qu'il ne se croyait pas changé. Alors je le regardais mieux. Et en somme, sauf qu'il avait tellement grossi, il avait gardé bien des choses autrefois. Pourtant, je ne pouvais comprendre que ce fût lui. Alors, j'essayais de me rappeler. Il avait dans sa jeunesse les yeux bleus, toujours riant, perpétuellement mobile, en quête évidemment de quelque chose à quoi je n'avais pas pensé et qui devait être fort désintéressé. La vérité, sans doute, poursuivi en perpétuelle incertitude, avec une sorte de gaminerie, de respect errant pour tous les amis de sa famille. Or, devenu homme politique, influent, capable, despotique, ses yeux bleus, qui d'ailleurs n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient, s'étaient immobilisés, ce qui leur donnait un regard pointu, comme sous un sourcil froncé. Aussi l'expression de gaieté, d'abandon, d'innocence s'était-elle changée en une expression de ruse et de dissimulation. Décidément, il me semblait que c'était quelqu'un d'autre. Quand tout d'un coup j'entendis, à une chose que je disais, son rire, son fou rire d'autrefois, celui qui allait avec la perpétuelle mobilité gaie du regard. Des mélomanes trouvent qu'orchestrée par X, la musique Z devient absolument différente. Ce sont des nuances que le vulgaire ne saisit pas. Mais un fou rire étouffé d'enfance, sous un ciel en pointe, comme un crayon bleu bien taillé, quoique un peu de travers, c'est plus qu'une différence d'orchestration. Le rire, c'est ça. J'aurais bien voulu reconnaître mon ami, mais, comme dans l'Odyssée, Ulysse s'élançant sur sa mère morte, comme un spirit essayant en vain d'obtenir d'une apparition une réponse qui l'identifie, comme le visiteur d'une exposition d'électricité qui ne peut croire que la voix que le phonographe restitue inaltérée soit tout de même spontanément émise par une personne. Je cessais de reconnaître mon ami. Une dame sortit, car elle avait d'autres matinées et devait aller goûter avec deux reines. C'était cette grande cocotte du monde que j'avais connue autrefois, la princesse de Nassau. Comme elle passait devant moi en se sauvant à l'anglaise, je la saluai. Elle me reconnut. Elle me serra la main et fixa sur moi les rondes prunelles mauves de l'air qui voulait dire « Comme il y a longtemps que nous ne nous sommes vus !» Nous parlerons de cela une autre fois. Elle me serrait la main avec force. Ne se rappelant pas au juste si en voiture, un soir, qu'elle me ramenait chez la duchesse de Guermantes, il y avait eu ou non une passade entre nous. À tout hasard, elle sembla faire allusion à ce qui n'avait pas été, chose qui ne lui était pas difficile, puisqu'elle prenait un air de tendresse pour une tarte aux fraises et mettait, si elle était obligée de partir avant la fin de la musique, l'air désespéré d'un abandon qui ne serait pas définitif. Incertaine d'ailleurs sur la passade avec moi, son serrement de main furtif ne s'attarda pas et elle ne me dit pas un mot. Elle me regarda seulement, comme j'ai dit, d'une façon qui signifiait qu'il y a longtemps et où repassaient ses maris, les hommes qu'il avait entretenus, de guerre, et ses yeux stellaires, semblables à une horloge astronomique taillée dans une opale, marquèrent successivement toutes ces heures solennelles du passé si lointain qu'elle retrouvait à tout moment, quand elle voulait dire un bonjour, qui était toujours une excuse. Puis, m'ayant quitté, elle se mit à trotter vers la porte pour qu'on ne se dérangeât pas pour elle, pour me montrer que si elle n'avait pas causé avec moi, c'est qu'elle était pressée, pour rattraper la minute perdue à me serrer la main afin d'être exacte chez la reine d'Espagne qui devait goûter seule avec elle. Même près de la porte, je crus qu'elle allait prendre le pas de course. Et elle courait en effet à son tombeau. Une grosse dame me dit bonjour pendant la courte durée duquel les pensées les plus différentes se pressèrent dans mon esprit. J'hésitai un instant à lui répondre, craignant que, ne reconnaissant pas les gens mieux que moi, elle eût cru que j'étais quelqu'un d'autre, puis son assurance me fit au contraire de peur que ce fût quelqu'un avec qui j'avais été très lié, exagérer l'amabilité de mon sourire, pendant que mes regards continuaient à chercher dans ses traits le nom que je ne trouvais pas. Tel un candidat au baccalauréat attache ses regards sur la figure de l'examinateur et espère vainement y trouver la réponse qu'il ferait mieux de chercher dans sa propre mémoire, tel, tout en lui souriant, j'attachais mes regards sur les traits de la grosse dame, et me semblèrent être ceux de Madame Swann. Aussi mon sourire se nuança-t-il de respect. Pendant que mon indécision commençait à cesser, alors j'entendis la grosse dame me dire, une seconde plus tard, « Vous me preniez pour maman, en effet. Je commence à lui ressembler beaucoup. » Et je reconnus Gilberte. L'action des années qui avait transformé tous les êtres que j'avais vus aujourd'hui, et Gilberte elle-même, avait certainement fait de toutes celles qui survivaient, comme elle eût fait d'Albertine si elle n'avait pas péri, des femmes trop différentes de ce que je me rappelais. Je souffrais d'être obligé de moi-même à atteindre celle-là, car le temps qui change les êtres ne modifie pas l'image que nous avons gardée d'eux. Rien n'est plus douloureux que cette opposition entre l'altération des êtres et la fixité du souvenir. Quand nous comprenons que ce qui a gardé tant de fraîcheur dans notre mémoire n'en peut plus avoir dans la vie, que nous ne pouvons au dehors nous rapprocher de ce qui nous paraît si beau au-dedans de nous, de ce qui excite en nous un désir, pourtant si individuel, de le revoir, qu'en le cherchant dans un être du même âge, c'est-à-dire dans un autre être. C'est que, comme j'avais pu souvent le soupçonner, ce qui semble unique dans une personne qu'on désire ne lui appartient pas. Mais le temps écoulé m'en donnait une preuve plus complète, puisque après 20 ans, spontanément, je voulais chercher, au lieu des filles que j'avais connues, celles qui possédaient maintenant cette jeunesse que les autres avaient alors. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le réveil de nos désirs charnels qui ne correspond à aucune réalité, parce qu'il ne tient pas compte du temps perdu. Il m'arrivait parfois de souhaiter que par un miracle entrasse auprès de moi restée vivante, contrairement à ce que j'avais cru, ma grand-mère, Albertine. Je croyais les voir. Mon cœur s'élançait vers elle. J'oubliais seulement une chose. C'est que si elle vivait, en effet, Albertine aurait à peu près maintenant l'aspect que m'avait présenté à Balbec Madame Cottard, et que ma grand-mère, ayant plus de 95 ans, ne me montrerait rien du beau visage calme et souriant avec lequel je l'imaginais encore maintenant.
Ainsi se termine cette émission de notre série que nous consacrons à Marcel Proust. Le thème de cette émission était « La soirée guermante ». La soirée guermante est un épisode de la recherche qui se trouve dans le dernier tome de l'ouvrage où nous avons choisi ces passages que vous avez entendus dits par André Bonhomme, avec qui nous co-réalisons ces émissions et que nous remercions grandement. Les illustrations musicales qui ponctuaient les lectures étaient des extraits musicaux tirés de différentes pièces, toutes écrites et interprétées par Carlos D'Alessio.
Thank you.